tu ne viens pas, rends-moi.
Vous avez vu l'heure ?
Hop, 16h20, hop, 3h du mat, hop, 11h10, hop, ta gueule.
Lyon, Toulouse, c'est partout, tout le temps.
Sur davuradio.fr.
Là, ça tourne là ? Parce que moi, ça me bloque la caméra.
La vie comme quand la lumière s'allume en boîte. Personne n'a blâmé à part moi, même si je n'ai pas de chat. Tu sais, on a marre de tout, toujours prendre sur soi. Si je me tais, c'est pour mieux trouver ma voix. Je m'attends à parler, m'enlever tout ce poids. Par où commencer, je ne saurais pas. Soigner mon cœur tous les samedis soirs. Le soigner de quoi? Je sais pas.
Je sais pas.
Déçu de l'amour comme quand la télé bug en plein match. Comme quand on tourne en tempête. Allons
J'ai sur Transat. Tu sais, y'en a marre de toujours faire semblant. Si c'est noir, c'est noir, parle pas de gris, de blanc.
C'est sous la barquette.
Et donc maintenant on va parler sexualité. Alors t'es pas choqué parce que t'as que 23 ans, je te rappelle.
Ouais.
Un matin, on s'est réveillé et bim, 40 piges. Comment ça va les quadras? Bienvenue dans votre univers, bienvenue dans Quadra. Ensemble, on va parler des joies et des galères de la quarantaine. Vous savez, cette période où vous vous rendez compte que ce qui prend plus de poids que vous, ce sont vos responsabilités. Alors installez-vous bien, merci à ceux qui s'abonnent. Pensez à mettre la petite cloche et le petit pouce pour ne rien rater de Quadra. Mais surtout, laissez vos commentaires, vos histoires, vos anecdotes pour peut-être vous aussi venir au micro de Quadra. Quadra est diffusé sur les plateformes audio comme Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Mais aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, quadra.podcast. Dans chaque épisode, je serai avec des personnalités inspirantes qui viendront nous raconter leur parcours, leur vision de la quarantaine, comment ils l'abordent, comment ils la vivent, comment ils l'ont vécu pour certains, mais aussi avec des experts qui viendront aussi nous parler de la quarantaine dans la société aujourd'hui. L'idée dans Quadra, c'est de traverser cette période de la quarantaine en vous apportant des tips, des témoignages, le tout dans le respect, la bienveillance, mais surtout la bonne humeur. Donc faites une pause dans le Quadra univers, lâchez les biberons, lâchez les applis de rencontre, et bienvenue dans Quadra. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Quadra, le podcast dédié aux défis et aux joies de la quarantaine. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de relations, de sexualité, de rapports humains avec la journaliste, avec le ton très décomplexé, Fleur Chéri. Fleur Chéri, bonjour.
Bonjour Camille.
Comment ça va?
Très bien, merci.
Moi, je suis très content de te revoir, parce que je le dis, on se connaît. Fleur, tu viens d'écrire un livre, tu viens de sortir un livre qui s'appelle Le microscope dans la culotte.
C'est ça.
Voilà, on est d'accord. On va faire le lien avec toute la quarantaine, évidemment, entre ce qu'il y a dans ce livre, ton expertise et la quarantaine. Mais déjà, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le microscope, dans la culotte?
En lien avec la quarantaine ou de façon générale?
De façon générale.
De façon générale, mais ça concerne aussi les quarantenaires et ça concerne de façon générale tout le monde. La partie la plus intéressante de mon livre, je pense que c'est la deuxième, c'est comprendre le monde et comprendre à quel point les algorithmes, l'intelligence artificielle, le génie biochimique, l'essor de la chirurgie changent drastiquement notre vie intime et amoureuse.
Et comment on fait pour faire le lien entre la science et la culotte, justement? C'est parce que le titre évoque bien le contenu du livre, tu vois, le microscope dans la culotte.
Le microscope dans la culotte, le lien entre la science et la sexualité. Et pour moi, quand on parle de sexualité, en particulier dans le débat public, on évoque très souvent des avancées qui sont des avancées sociales et politiques, comme par exemple des grands discours qu'on peut avoir à l'Assemblée nationale pour, je vais prendre un exemple qui est celui de l'avortement. Mais ce discours discours politique qu'on va apprendre, nous, dans nos classes, il n'est possible que parce qu'il y a des découvertes qui sont celles de la pilule contraceptive, voire même derrière, de techniques de chirurgie et de pilules qui permettent l'abortion, l'IVG derrière. Donc c'est parce qu'il y a eu un essor du génie biochimique et en même temps de la chirurgie qu'aujourd'hui, à la fois, on peut avoir la contraception et en même temps qu'on peut pratiquer dans de meilleures conditions l'IVG.
La sexualité, elle évolue aussi, vu que du coup, on peut forcément plus pratiquer la sexualité parce qu'il y a cette science qui a fait le travail.
Et voilà, et parce que la science est arrivée et elle nous a mis à disposition des outils, ça a changé, mais énormément notre rapport à la sexualité. Et les plus grands bouleversements se sont passés pour moi les 50 dernières années. Ça a commencé peut-être avec la pilule contraceptive qui est un des plus grands bouleversements sur le rapport des femmes à leur sexualité. Ça a permis quand même une vraie liberté. Et avant, on peut aussi citer le préservatif.
Bien sûr.
Mais il faut attendre que le caoutchouc puis le latex arrive dans l'industrie. Donc on est dépendant de cet essor de connaissances scientifiques et technologiques pour pouvoir aujourd'hui avoir une sexualité plus simple, avec une planification des grossesses plus maîtrisée, avec moins d'IST, avec aussi ce que j'appelle de la performance, c'est-à-dire le Viagra qui va venir pallier. On va parler des quarantenaires.
Par exemple,
les troubles de l'érection à partir de plutôt 45-50 ans, mais qui arrive avec le Viagra ou le Cialis.
Ouais.
Et ça touche beaucoup les hommes. Et chez les femmes, on va avoir des symptômes de périménopause, par exemple la sécheresse vaginale. Aujourd'hui, tu as des médicaments qui permettent de balancer les hormones pour éviter les phénomènes de sécheresse vaginale. Et donc de prolonger un peu plus loin une expérience confortable de la sexualité.
Oh, c'est top, j'adore quand on parle. C'est la deuxième fois qu'on fait une interview là-dessus, j'adore quand Florelle en parle. Justement, dans ton travail, t'observes les évolutions de la sexualité. Comment tu décrirais celle des quadras aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est plus épanouie, plus complexe ou simplement différente de quand on a 20 ans ?
Ah bah, ce qui est sûr, c'est qu'elle est... Alors, quand on a 20 ans aujourd'hui, quand eux, les quadras, ils avaient 20 ans.
Quand les quadras avaient 20 ans. On en parlera après, des petits jeunes.
D'accord. Alors chaque âge ses plaisirs et ses déconvenues en même temps. À 20 ans, on est dans une phase d'exploration de sa sexualité. Quand on a 40 ans, on explore un petit peu moins, même si chacun va évidemment à son rythme. Et on est parfois... Alors, ça dépend des personnes. 40 ans, c'est un peu un âge charnière où, pour certains, on est encore dans des obligations, ce que j'appelle lourdes familiales, c'est-à-dire avec les enfants en bas âge, qui nous empêchent d'être vraiment dans une exploration, une liberté totale sur sa sexualité. Par exemple, sur le libertinage, quand on a un enfant de 1, 2 ou 3 ans à la maison, même plusieurs en bas âge, c'est très difficile de découcher avec son partenaire et d'aller sortir. Voilà, on est dans d'autres obligations, d'autres moments de vie. Mais t'as des quarantenaires qui ont déjà des enfants qui sont un peu ados. Là, ils commencent à redécouvrir, surtout vers 45-50 ans, une liberté. Et là, t'as un nouvel élan dans la sexualité quand les enfants ont grandi et que les parents se disent, c'est bon, ils sortent un petit peu du nid. Moi aussi, je peux commencer à réinvestir dans ma vie sexuelle. Mais 40 ans, c'est un âge où soit il y a encore des enfants en bas âge et c'est compliqué, soit on est même parfois encore en construction de vie. Donc, on utilise sa sexualité pour rencontrer un partenaire sérieux et pourquoi pas fonder une vie de famille.
Et c'est marrant parce que tu parles du libertinage. J'avais pas cette question, mais elle me vient. Est-ce que les quadras aujourd'hui font partie d'une génération qui pratique beaucoup le libertinage, parce que ça c'est complètement décomplexé.
Alors vraiment l'âge d'or, on va dire, du libertinage, c'est le début des années 2000 avec les clubs libertins, notamment les Chandelles, dont tout le monde parle à la télé et qui connaissent une vraie hype, on va dire, à ce moment-là. Aujourd'hui, les quarantenaires ont un petit peu loupé le coche des débuts des années 2000, parce qu'ils avaient 20 ans début des années 2000, donc ça ne les concernait pas vraiment. Et ils ont aussi un peu loupé le coche de la transformation qui s'opère aujourd'hui dans le milieu libertin, que je qualifierais plutôt des soirées sexpositives, avec on dit les soirées sexpo même.
D'accord.
Donc des soirées qui cassent un petit peu les codes libertins à la papa-maman, enfin que les jeunes considèrent à la papa-maman traditionnelle, c'est-à-dire avec des femmes qui doivent porter des Louboutins ou de la belle lingerie, et les hommes en costard-cravate, très genré, et une approche plus tantrique, plus à la cool, plus joyeuse de la sexualité, bon, qui vient toujours un peu des États-Unis, qui est peut-être un petit peu plus new age dans la proposition, et les jeunes d'aujourd'hui s'orientent plutôt dans ce type de communauté. Les quarantenaires, moi, j'ai cette impression-là qui sont vraiment, tu vois, à cheval entre la génération des boomers ou des jeunes boomers et la génération des millennials.
Ah, on n'est pas au bon endroit.
Mais il y a une espèce de flottement entre certains qui adhèrent plus aux boomers et certains plus aux millennials.
Ouais,
mais il y a quand même c'est quand même une génération qui est assez déchirée en deux et qui ne sait pas trop où se situer.
Ouais. Donc les apps de rencontre sont arrivées, elles ont chamboulé beaucoup de choses. Comment les quadras s'adaptent en fait à ces nouvelles relations? Est-ce que ça biaise un peu justement les relations entre les personnes?
Les quadras, ils ont vraiment eu l'habitude à 20 ans de rencontrer des personnes sur des schémas classiques qui étaient les soirées entre amis, les boîtes de nuit. Aujourd'hui, un jeune de 20 ans, il se pose peut-être moins la question, il va sur son application de rencontre, c'est plus facile d'utilisation pour lui et il a peut-être moins l'habitude d'avoir dragué dans la vraie vie. Alors que les quadras, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment une génération qui a eu cette habitude-là de rencontrer dans un bar, de sociabiliser. Et parfois, peuvent pour certains, et encore une fois, vous êtes les quarantenaires sont une génération
qui sera un jour, hein, t'inquiète pas.
Moi, je vais y arriver, mais j'aurai d'autres peut-être problématiques liées à ma génération. Mais sur cette génération très spécifiquement, certains qui sont un peu nostalgiques de cette époque où on pouvait draguer au café et qui ont parfois même du mal à comprendre le mouvement MeToo en se disant, mais attends, on peut plus séduire comme on se séduisait avant. Et ceux qui ont très vite pris le pli,
ouais,
et qui se mettent sur les applications de rencontre et qui s'épanouissent dans ce nouveau jeu virtuel.
Merci beaucoup, parce que tu parles de cette nouvelle génération là, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, et dans ton livre t'en parles de cette génération un peu abstinente, tu donnes,
ouais,
même des chiffres,
ouais.
Comment on l'explique que moi, enfin c'est je me donne mon impression perso, donc moi j'ai 40 ans, j'ai donc des gens de mon âge, quasi de mon âge autour de moi, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on parle plus nous de cul entre guillemets que la génération qui a 20 ans, tu vois. Il y a beaucoup plus d'intérêt chez les quadras qu'il y en a chez la génération Z.
Alors, sur le fait de parler de cul, d'avoir une sorte d'envie de parler de sexe entre copains, il y a peut-être moins cette envie-là chez les jeunes de 20 ans, parce qu'il y a aussi l'essor du porno qui fait que eux, depuis qu'ils sont très jeunes, ils ont peut-être vécu plus que les quarantenaires d'aujourd'hui une sorte d'hyper exposition à la pornographie qui crée une forme de lassitude quand ils arrivent à 20, 25 ans, en
ah
disant
ouais,
ouais bah, c'est bon, j'ai tout vu, j'ai regardé Pornhub. Il peut y avoir cet effet-là. Maintenant, il y a beaucoup d'autres effets. Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut observer aussi sur les générations qui ont 20 ans aujourd'hui, c'est des générations qui ont des problématiques de santé mentale, notamment à cause de la pandémie mondiale, qui fait qu'ils sont un peu renfermés sur eux-mêmes, renfermés dans leur petit cocon. C'est aussi une génération qui a vu la fermeture de boîtes de nuit, donc c'est une génération qui sort moins.
Ah, c'est vrai qu'ils vont pas en boîte de nuit.
La vôtre, voilà.
Ouais.
Ils vont moins en boîte de nuit, ils vont moins dans les bars, ils vont moins sociabiliser dans ces endroits-là.
Ouais.
Et un des autres effets, c'est que c'est une génération qui va consommer beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et notamment des contenus qui vont leur matérialiser les relations entre les hommes et les femmes. Et quand on est une fille et quand on est un garçon, on n'a pas du tout le même contenu qui nous arrive. Souvent, les femmes, elles ont un contenu très féministe, très, par exemple, ne fais pas d'enfants, tu peux tout faire toute seule. Les hommes, c'est du caca. j'exagère un petit peu, mais il y a de ça. Alors que chez les hommes, on va avoir des discours parfois très masculinistes, qui vont circuler beaucoup sur leur réseau et ils vont se monter un peu la tête comme ça. Ce qui fait que quand ils arrivent en date pour la première fois, eh ben, ils n'ont pas forcément de valeurs communes entre une fille et un garçon. Aujourd'hui, il y a deux tiers des femmes, de jeunes femmes de moins de 25 ans qui adhèrent à des valeurs qu'on dit progressistes, donc plutôt féministes. Deux tiers des hommes qui, de la même tranche d'âge, qui adhèrent à des valeurs plutôt traditionnelles, donc peut-être masculinistes. Et donc, ça crée un espèce de d'écart où les hommes et les femmes, les jeunes hommes, les jeunes femmes n'arrivent plus à se comprendre entre eux.
Et donc ça me fait venir à cette question que j'avais, c'est que dans ton livre tu parles de la masturbation.
Ouais.
J'ai adoré ce chapitre.
Très bien. Tu t'es senti concerné, Camille ?
Écoute, je suis célibataire.
Ah.
J'ai des soirées de solitude. En quoi et pourquoi elle a évolué et se masturber, c'est bon ou c'est mauvais pour la santé quand on est quadra ?
A priori, si tu me poses la question comme ça, je dirais plutôt c'est très bon pour la santé parce que ça te permet de rester connecté avec ton corps et ta libido. Maintenant, si cette masturbation est excessive, c'est-à-dire elle te fait souffrir, tu as des comportements compulsifs avec, tu le fais à des moments improbables de la journée et tu te replies sur toi-même, là, tu as peut-être une addiction, un trouble addictif,
ouais,
et vaut mieux consulter.
Non, c'est pas mon gars.
Voilà. Dans la majorité des cas, si tu te masturbes correctement, sans que ça prenne de la place sur les choses les plus importantes de ta vie, oui, c'est très bien, ça montre que ton corps, bah, il a des envies, il a des pulsions, il a une libido, c'est très sain.
Mais tu parles que dans le livre, tu parles du fait que les femmes se masturbent beaucoup plus qu'avant.
Elle déclare qu'elle se masturbe plus qu'avant. Alors, est-ce qu'avant elle mentait? Est-ce qu'elle mente moins? C'est une question. Mais oui, elle déclare plus se masturber. Je pense aussi qu'il y a l'effet sextoy, notamment la technologie de l'air pulsé qui a été proposée par le womanizer. Mais tu connais très bien, expert masturbation.
Je suis calé sur le sujet.
Donc, il y a 10 ans, il y a cette technologie qui est arrivée sur le marché et qui fait que les femmes se sont dit, mais tiens, c'est plus facile d'avoir un orgasme qu'avec mes mains. Parce que chez certaines femmes, le corps est un petit peu plus ensommeillé, prend plus de temps à se découvrir. Et aujourd'hui, on a des sextoys qui sont assez précis, assez fins, qui répondent mieux qu'un partenaire organique, si je puis dire, au plaisir féminin. Et donc, elles redécouvrent leur corps. Alors, le danger ou le point d'attention, c'est qu'il ne faut pas peut-être tout le temps rester bloqué sur le sextoy ou l'objet, parce qu'on en devient après dépendant. Ça devient difficile parfois d'avoir une relation avec un autre. Mais ça permet un premier éveil, et puis pourquoi pas après une exploration avec un autre partenaire.
Est-ce qu'il y a plus de sextoy chez les quadras, et même dans les couples
de façon générale, sur toutes les tranches d'âge, oui, il y a plus de sextoy. Principalement chez les jeunes, principalement chez les plus de 50 ou 60 ans aussi. Mais encore une fois, on est dans cet esprit de liberté. Certainement chez les quadras aussi. De toute façon, il y a plus de sextoy chez toutes les tranches d'âge. Ça dépend encore une fois des quadras. Quand on a des enfants seuls à la maison, on n'a peut-être pas forcément le temps de se masturber, et surtout avec un sextoy qui fait un peu de bruit, où il faut le laver, parfois il ne faut pas le laisser traîner. Bon,
ouais, parce que si tes enfants en bas âge ils prennent pour un jouet, t'es mal.
Voilà, il y a ce truc-là, et puis il faut le nettoyer, c'est de la logistique. Donc les quarantenaires qui ont des enfants en bas âge préfèrent les quickies, souvent, c'est rapide, voilà, ni vu ni connu, et puis... que le sextoy qu'il faut recharger, qu'il demande un petit peu de logistique.
Je suis en train de penser à tous mes potes qui ont des enfants en bas âge. Je suis en train d'imaginer tout le monde.
Mais c'est possible aussi. Et comme après, ça permet un orgasme assez rapide, certains peuvent se dire, tiens, c'est intéressant, ça permet de le faire efficacement, très rapidement, et de ne pas perdre trop de temps pendant la sieste du petit.
Justement, pour en revenir donc au quadra, il y a pas mal de quadras qui vivent des ruptures... qui traverse, c'est un âge où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ruptures, surtout en ce moment. Comment on fait aujourd'hui alors que les codes sont différents pour retrouver des relations? Est-ce que c'est pas compliqué pour un quadra après une rupture de se retrouver sur le marché, de retrouver des codes
Les codes changent beaucoup. Alors c'est vrai que ça peut être difficile quand on a été dans une relation longue, par exemple 15-20 ans avec la même personne, parce qu'on drague plus à 20 ans comme on drague aujourd'hui à 40. Et en effet, il faut se mettre à jour sur notamment les applications de rencontre et tous les codes implicites qui sont venus se greffer sur la rencontre amoureuse. Maintenant, à 40 ans, il y a quand même de plus en plus de personnes, surtout à Paris, qui sont célibataires, donc ça laisse un vivier de possibles et de personnes qui peuvent plus nous correspondre à 40 ans que les choix qu'on a fait quand on avait 25 ans, on s'est mis avec quelqu'un parce que c'était notre copain à l'époque dans les études, mais finalement en grandissant, on se rend compte qu'on n'a plus trop de choses en commun et on se retrouve à 40 ans à faire des choix qui sont peut-être plus alignés avec ce qu'on veut soi.
D'accord. J'ai l'impression que c'est compliqué d'avoir 40 ans. Et justement, à 40 ans, est-ce que les quadras pensent beaucoup plus à l'horloge biologique ? On parlait tout à l'heure, tu me parlais de l'histoire des PMA, etc.
Il y a ce sujet de 40 ans qui sonne un peu la fin de l'horloge biologique, parce que c'est quand même une fenêtre biologique pour faire un enfant chez la femme. Alors même si aujourd'hui la science avance beaucoup pour repousser un petit peu les limites, notamment avec la PMA et les techniques de FIV, ça reste, au-delà de 42 ans, ça reste compliqué. Donc oui, il y a cette pression-là qui va venir s'ajouter chez la femme, où elle se dit, le projet bébé, c'est soit maintenant, soit jamais. Et il y a un choix qui peut s'opérer à ce moment-là.
Je ne pensais pas, en approchant la quarantaine, croiser des femmes sur ma route qui me parlent de faire congeler leurs ovocytes, etc.
Ouais.
Tu vois, parce que c'est un truc, nos mères, quand elles avaient 40 ans, je n'ai jamais entendu parler de ces sujets-là. Tu vois. Et aujourd'hui, je l'entends dans la bouche de certaines copines.
Parce qu'on a le plus le choix. Peut-être que ta mère, à son époque, avait une destinée un petit peu plus tracée, avec un choix d'enfant qui allait se faire jeune, des premières naissances qui se font jeunes. Aujourd'hui, les premières naissances, elles sont autour de 30 ans, ce qui est quand même assez tard.
Ouais, bien sûr.
Par rapport à notre biologie et par rapport à la fertilité des femmes de façon générale. Et donc, on a cette possibilité qui est offerte aux femmes de faire congeler des ovocytes, et c'est assez récent dans les lois de bioéthique françaises, pour programmer des naissances un petit peu plus tard. Maintenant, même si les gamètes fonctionnent bien, il y a encore le corps qui est pas toujours au point. Et c'est vrai qu'avoir un accouchement, enfin une grossesse tardive, ça peut rajouter des complications parce que le corps peut encore avoir du mal à suivre.
Il y a pas un côté genre j'ai personne dans ma vie, je me dis bon au cas où je fais congeler des ovocytes et j'attends le plus tard possible pour le faire.
Bah souvent ça peut être ça, oui, d'attendre la bonne personne avec qui le faire. Ça peut être ça.
Ouais,
et se garder des options.
Ok. Est-ce que les fantasmes, les envies, les péchés mignons, etc., est-ce que ça change à la quarantaine?
Alors, pour ceux qui ont des enfants qui grandissent, il y a des territoires d'exploration qui sont possibles quand les enfants sont grands, qu'on ne pouvait pas avant. Maintenant, sur la plupart des fantasmes, alors ça dépend de quoi on parle. Par exemple, les fétichismes chez les hommes, s'ils les avaient à 15 ans, ils vont avoir les mêmes à 40. En revanche, ce qu'on se permet d'explorer ou pas explorer, par exemple le libertinage, ça nécessite d'avoir un petit peu de liberté, surtout sur ces soirées.
Ouais.
Et donc ça, on va plutôt attendre que les enfants soient grands, donc 40, 45, 50 ans, pour pouvoir l'explorer.
D'accord, c'est bien. Donc explorer les amis, explorer. Tu parles de la manière dont on zoome sur nos vies sexuelles dans ton livre, l'idée du microscope, tu vois.
Ouais.
Pour les quadras, est-ce que le microscope, il est plus indulgent ou il est plus technique? Ou il est plus angoissant qu'à 20 ans?
Ah bah il est plus angoissant qu'à 20 ans. Ton spermogramme à 40, par exemple, c'est pas... Si je veux juste regarder ça, c'est peut-être pas le même qu'à 20 ans. Donc oui, il y a ce problème de fertilité. Bon, déjà, c'est un vrai sujet, la fertilité masculine, parce que sur 50 ans, elle a baissé énormément. Enfin, en 40 ans, elle a diminué de 2 sur la concentration spermatique. Donc il y a de moins en moins de sperme viable.
Mais c'est
mobile.
Dû à quoi?
Perturbateurs endocriniens, pollution, mode de vie stressant, on ne sait pas trop.
Ah ouais.
Mais le mode de vie occidental, ouais, qui fait que la fertilité baisse énormément, certainement. Et tout le monde n'est pas d'accord d'ailleurs sur les raisons aujourd'hui de la baisse de fertilité, mais elle est assez inquiétante. Et aussi avec l'âge, évidemment, à 40 ans, tes spermatozoïdes, ils sont un petit peu moins enthousiaste,
ouais.
qu'à 20 ans. Non, maintenant, ça reste moins la chute de fertilité, quand même, avec les années, moins préoccupante chez l'homme que chez la femme.
Oui, puis après, en même temps, j'ai l'impression que les gens ont moins aussi envie de faire des enfants. Donc, à la limite.
Après 40 ans, tu veux dire?
Ouais, même avant. Enfin, je trouve que là, 40 ans, j'ai l'impression que si on regarde derrière, enfin, devant nous plutôt, tu vois, les 30 ans, les 20 ans, j'ai l'impression que l'envie de faire des enfants commence à pas inexistante, mais elle est de moins en moins présente.
Parce que tu te dis que t'as d'autres choses qui ont combli ta vie entre temps, oui. Peut-être.
Je parle pas forcément de moi. Moi, je sais que personnellement, j'ai pas envie forcément d'en avoir. Mais j'ai l'impression que il y a moins cette envie de faire des enfants qu'il y avait avant.
Oui. Ah bah c'est évident là. Il y a une chute de natalité qui est énorme et c'est lié notamment, je pense, aux femmes principalement qui ont de moins en moins envie de faire des enfants. Et les hommes, certainement, suivent un peu le mouvement. Mais c'est les femmes, en premier lieu, qui portent le désintérêt, on va dire, pour la maternité en premier lieu. Parce qu'il y a d'autres choses qui comblent leur vie, parce qu'elles trouvent tôt de territoire d'épanouissement. Parce qu'il y a la question financière aussi, qui questionne beaucoup les jeunes femmes, en se disant, mais aujourd'hui, avoir un enfant, c'est de l'argent. Est-ce que j'aurai assez de surface financière? Est-ce que mon couple, il va être assez solide pour durer dans le temps et maintenir l'enfant à flot? Donc, il y a toute cette question-là d'angoisse un peu sur l'avenir qui viennent aussi ralentir le désir d'enfant.
Est-ce que le fait qu'on soit... Enfin, on est une génération quand même qui est très surchargée, qui travaille beaucoup, etc. Ça joue aussi parce que... Je suis honnête, si je veux pas d'enfant de mon côté, je veux plus. J'ai voulu quand j'avais 30 ans, bon, ça s'est pas fait, voilà. Mais si je veux plus, c'est parce qu'aujourd'hui, je reconnais que j'aime ma vie et j'ai pas envie de la changer, en fait.
Oui.
Je suis honnête, hein, parce que moi, je veux pas te dire, ouais, c'est pour sauver la planète, et bon, c'est pas vrai. Moi, ceux qui disent ça, je les crois.
Je prends des bancs.
Non, mais je les crois pas, ces gens-là.
Je ne suis pas mes déchets, je prends des bancs.
Je crois pas ces gens-là. Mais pour moi, c'est parce qu'on a envie de continuer à se dire, bah, arrivé à la quarantaine, je kiffe encore ma vie comme si j'en avais 30, quoi.
Ouais, et donc, c'est l'amour enfant, de la liberté. Mais bien sûr, l'amour de la liberté, qui est possible aujourd'hui. On peut choisir beaucoup plus facilement sa carrière que nos parents. On peut plus facilement choisir de là où on veut vivre que nos parents. La digitalisation a beaucoup aidé à favoriser notre liberté. Donc oui, le désir d'enfant se fait de moins en moins, de plus en plus optionnel dans des carrières et des vies bien remplies, surtout sur des métiers passion comme celui que tu as. Oui.
Mais ça viendra peut-être, hein, je dis pas, je suis pas fermé.
Tu peux peut-être rencontrer quelqu'un, on ne sait pas.
Oui, je ne ferme pas la porte non plus, mais c'est pas dans mes projets. Tu parles aussi de la connaissance de son corps. Est-ce que tu penses qu'on le connaît de mieux en mieux en prenant de l'âge?
Oh bah j'espère que tu le connais mieux qu'à tes 20 ans.
Oui, mais est-ce que c'est le cas de tout le monde?
Oui, bah tout le monde. Je pense que avec l'âge, évidemment, que tu connais mieux ton corps. D'ailleurs, oui, j'ai fait beaucoup d'interviews sur la sexualité des quinquas, plutôt qui, c'est quadra, c'est pas très loin, qui me confie tout le temps chez les femmes, et ça, c'est vraiment un motif récurrent. Oh, c'est génial, c'est beaucoup plus facile d'avoir des orgasmes, c'est beaucoup plus facile même d'accepter son corps et d'avoir confiance en soi, alors qu'à 20 ans, on est peut-être canon, mais on est toujours complexé, on se trouve pas normal, pas assez bien, pas assez si, alors qu'à 50 ans, les filles, elles ont, ou 40, accepté leur corps plus facilement, en tout cas pour certaines, plus facilement compris comment elles pouvaient avoir du plaisir, comment elles pouvaient jouir, mieux guider leur partenaire. Et ça, c'est une vraie bulle de liberté, surtout du côté des femmes, parce que l'exploration de son corps quand on est une femme, c'est plus complexe que quand on est un homme, où bon, la masturbation est quand même plus simple.
Mais est-ce que du coup, ça fait pas en sorte qu'on ressente une certaine pression? Parce que, dans le sens où, je m'explique, arrivé à la quarantaine, et puis encore après, le corps change encore. Et puis t'as mal, et puis il y a des choses qui changent, et tu parlais du Viagra tout à l'heure, donc il y a moins de performance. Comment on peut dédramatiser ce truc-là? Quel conseil on donnerait au quadra pour qu'ils se disent hey, c'est pas grave?
La performance pénétrative, elle va diminuer avec le temps, c'est possible. Mais en fait, quand tu regardes les sexagénaires, par exemple, très souvent, ils réinventent la sexualité avec beaucoup plus de tendresse, de complicité, de caresse. C'est une sexualité qui se déporte un petit peu, qui est plus centrée sur la pénétration, mais qui va être une sexualité ou une sensualité beaucoup plus forte que ce que tu ressens à 40 ans. Même une sexualité libertine, c'est quand même une sexualité de performance.
Hein. Ouais, bien sûr.
Là où à 60 ans, souvent tu te détaches un petit peu de ce monde-là et tu préfères avoir des connexions plus douces, plus lentes, plus sensuelles. Alors, je tire le trait, tout le monde n'est pas comme ça, mais avec son partenaire.
Mais c'est là où tu dis corps change, je vais faire une confidence qui est presque drôle, c'est que quand ça m'arrive de pratiquer l'acte sexuel, il y a une question que je me pose souvent, c'est est-ce que je vais avoir mal au dos? Je te jure que c'est vrai. Parce que
tu
as l'impression que j'ai des problèmes de dos.
Là, tu sens que tu vieillis. Ouais. C'est à partir de ce moment-là.
Non, mais je te jure, parce que ça m'est déjà arrivé. Donc je me dis, ah non, je peux pas me
Et là, tu te dis, il y a des positions et des positions où c'est dangereux.
Mais oui,
et je me dis, c'est le début de la vie. Oui.
Est-ce que ça arrive à tous les autres de se poser ce genre de questions?
J'ai reçu récemment sur mon bureau le Kama Sutra des seniors, donc les meilleures positions pour éviter de se faire mal. Si tu veux, je te l'offrirai avec grand plaisir, Kémy.
Non, mais je suis pas senior encore.
Tu n'es pas le seul à te poser cette question, manifestement.
Je pense pas être le seul, quand même, à me dire. Faut que je fasse gaffe, je vais me faire mal. On va parler un peu d'amour, un petit peu. L'amour à 40 ans et à la quarantaine, est-ce que tu y crois? Ou est-ce que les histoires deviennent plus profondes ou juste de la légèreté?
Ah bah ça dépend des gens. Est-ce que je crois à l'amour à 40 ans?
Oui,
alors je vais dire, je vais
croire
à l'amour à tout âge, bien sûr, Kémy. Est-ce que l'amour à 40 ans, on va dire, c'est la même chose que le rapport au corps. C'est-à-dire qu'à 40 ans, tu te connais mieux, tu sais mieux comment tu tombes amoureux, et donc tu trouves des personnes qui sont peut-être plus alignées avec ce que tu aimes toi, plutôt qu'à 20 ans. Quand tu ne te connais pas, quand tu es en recherche identitaire, où tu vas avoir des premiers couples où tu tâtonnes un petit peu et tu fais des bêtises parce que tu communiques pas très bien, parce que tu sais même pas très bien toi-même ce que tu veux dans le futur. À 40 ans, normalement, tu es un peu plus fin sur ta façon de communiquer, ce que tu veux, ce que tu apprécies. Ça veut pas dire que ce que tu as envie, c'est une grande histoire d'amour, mais si tu as envie d'une grande histoire d'amour, normalement, tu la trouves plus facilement à 40 qu'à 20 ans.
Et puis c'est marrant parce que je pense que tu arrives aussi à un âge où à la quarantaine, tu fais plus attention à ce qu'on appelle les red flags.
Voilà. Typiquement, si tu dis si le mec, par exemple, son appart il est en bordel alors que toi t'es hyper maniaque et tu sais que ça va être un problème sur le futur, tu peux très facilement anticiper. Alors que quand t'as 20 ans, les apparts en bordel, c'est monnaie courante. Tout le monde qui range son petit studio, personne.
Tu t'en fous. Ouais, non, mais c'est vrai que maintenant, c'est mes relations maintenant, je les base un peu comme ça. C'est-à-dire que avant, je voyais des red flags, je disais ouais, c'est pas grave, ça passe, on verra plus tard. Donc ça va s'arranger, puis au final ça finissait dans un truc chaotique, puisque forcément on va pas sur le même chemin. Et j'ai l'impression que les quadras d'aujourd'hui, je sais pas comment étaient ceux d'avant, font un peu plus attention à ces choses-là, tu vois.
Les leçons ont été apprises.
Ouais,
voilà. Puis t'as des red flags sur lesquels tu peux être tolérant et d'autres sur lesquels tu l'es beaucoup moins, et normalement tu les connais mieux.
Si tu devais donner un conseil aux gens qui écoutent et qui regardent pour aborder cette décennie avec sérénité et plaisir, ça serait quoi?
Franchement, 40 ans, c'est pas la pire. Hein. non, mais déjà, c'est un âge où, en plus de ça, t'as une liberté qui est offerte tu es censé avoir accumulé un petit peu de patrimoine, t'as une liberté financière que t'as pas du tout à 20 ans, où t'as déjà fait tes preuves normalement professionnellement, donc t'es moins en train de trimer derrière un travail, faire plaisir à ton patron, t'es moins en construction. Et donc c'est un espace où t'as, où c'est censé être un espace de kiff en particulier, et la meilleure partie c'est 50 si tu veux que je les aide. Normalement, de mes témoignages, la meilleure partie c'est 50, donc vous attendez encore 10 ans et la meilleure partie arrive.
Bon bah faut qu'ils s'éclatent les gens. Est-ce qu'il y a un mythe sur la sexualité des quadras, ou même de manière générale, que t'aimerais exploser?
Ah bah la durée n'aura, enfin, est-ce qu'il faut tenir longtemps en pénétration par exemple?
Oui voilà, par exemple, si tu vois, enfin on a, c'est vrai que les garçons, on a toujours tendance à
faire jouir aussi. Il faut pas être obligé de faire jouir les gens, d'arrêter de se dire ah, s'il y a pas d'orgasme, lâcher les gens avec l'orgasme, laissez les tranquilles. Tu poses la question, si du non tu le lâches,
c'est pas grave,
et tu lui fais des bisous.
Voilà. Est-ce que le sexe ça nous maintient en bonne santé, et est-ce que ça allonge la durée de vie?
Il y a beaucoup d'études qui corrèlent la bonne santé avec la pratique sexuelle. Maintenant, les abstinents sexuels se portent très bien aussi.
Donc, oui, parce qu'ils ont 20 ans.
Non, mais même ceux qui sont plus âgés. Ce qui est peut-être gage de mauvaise santé, c'est quand tu as une frustration sexuelle ou que tu souffres de ton abstinence sexuelle, parce que ça va venir influer certainement sur ton psychisme. Et c'est là où tu peux avoir des problèmes de santé mentale. Maintenant, si tu es abstinent mais que tu t'épanouis vraiment et que t'as pas du tout envie de sexe, ou alors à l'inverse, si t'as une activité sexuelle assez active et que ça te va très bien, c'est parfait. Ce qu'il faut, c'est s'écouter, principalement.
Le truc le plus inattendu que tu as découvert en écrivant Le microscope dans la culotte?
Peut-être la pilule pour se remettre d'un chagrin d'amour, le propanolol. Ouais,
il y a des... Attends, arrête deux secondes. Le propanolol, c'est quoi? Parce que j'en prends depuis 5 ans.
C'est des bêta-blocants. Alors,
tous les matins.
C'est pourquoi? Pour l'angine? Tu le prends pour...
Non, parce que j'ai un truc au cœur.
T'as un truc au cœur, oui. Ouais. Bah alors, c'est très bien. Mais en fait, c'est un bêta-blocant qui a plein d'effets. Donc, ça peut être sur le cœur, ça peut être pulmonaire aussi. Et ça a aussi un effet pour relier l'amygdale et l'hippocampe. L'amygdale qui est le centre des émotions un petit peu brutes. Donc, quand tu vis une rupture amoureuse, souvent de la trahison ou de l'abandon, tu vas avoir des émotions un petit peu fortes. Et l'hippocampe qui permet de processer ton souvenir. Et donc, il y a une rupture qui peut se faire quand tu as un haut taux de cortisol, où ton souvenir il va rester bloqué dans la partie amygdale. Donc, tu vas avoir normalement des pensées un petit peu obsédantes, tu vas être en hypervigilance, tu vas pas savoir dormir, ou tu vas pas arriver à manger.
Bon, très bien.
On voit très bien tous ces états-là. Et ben, donc ça, c'est parce que ton souvenir il est bloqué. Donc, tu peux prendre cette petite pilule donc, que tu as déjà, faire 6 thérapies, donc ça s'accompagne de thérapies où tu es censé processer ton souvenir, et ça recrée des ponts entre l'amygdale et l'hippocampe. Ça permet de reprocesser ton souvenir en oubliant cette partie un petit peu douloureuse. Tu t'en rappelles toujours, ça ne te fait pas oublier ta rupture amoureuse, mais tu peux y repenser tranquillement. Tu n'es plus en état de stress post-traumatique. En fait,
c'est
un état de stress.
C'est scientifiquement prouvé, ça?
Alors, ça marche bien, oui. Il y a une efficacité, et c'est Alain Brunet qui développe beaucoup cette thérapie avec du bêta-bloquant. Mais il y a une thérapie aussi à faire à côté. Hein. Mais,
ouais, ouais.
Oui, mais c'est...
En fait, parce que je pense à ma dernière histoire qui s'est terminée. J'ai extrêmement mal vécu malgré le propanolol.
Et oui.
T'es témoin. Voilà.
Hein, bah,
elle m'a essayé au téléphone en pleurant. Donc.
Mais alors, un truc que je veux dézinguer, les chagrins d'amour. Genre, oh, c'est un chagrin d'amour. C'est hyper traumatisant pour le cerveau.
Merci,
extrêmement
merci.
Extrêmement mal au cerveau. C'est un truc qui détruit. C'est les mêmes endroits que la douleur. Ça fait très, très, très mal au cerveau, les ruptures amoureuses. Donc, on banalise beaucoup les ruptures amoureuses. On met le mot chagrin d'amour. Oh, ça va, c'est un chagrin d'amour. C'est extrêmement douloureux et très nocif pour le cerveau. Et ça te laisse en état de stress post-traumatique.
Et bah, je fais une dédicace à quelqu'un qui, je pense, va se reconnaître. Quand tu dis ouais c'est pas grave, c'est qu'une histoire, et ben tu vois, ça fait mal à la tête. Non mais je trouve ça top, l'histoire du chagrin d'amour, tu vois.
Ouais, faut pas banaliser les chagrins d'amour.
Merci, parce que déjà je veux pas faire la... Tu vois ce que j'allais dire je veux pas faire le mec sensible.
Non,
alors que ça fait super mal, et ça fait mal partout.
C'est tout ton corps.
T'as plus de libido en plus, t'as plus rien,
Tu peux plus manger, bah t'es en état de stress post-traumatique.
J'avais perdu 12 kilos.
Ouais, bah voilà. C'est possible. Mais tu vois, c'est énorme. Et ça, par exemple, c'est banalisé, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Tout le monde s'en moque qu'il y ait plus de ruptures en ce moment, alors que pour moi, c'est un vrai problème de santé publique et de santé mentale.
Ouais. Mais c'est la société aussi qui fait qu'il y a plus de ruptures.
Oui.
Ouais.
Peut-être les applications de rencontre aussi.
Ah, c'est sûr que ça n'aide pas. Mais non, mais vraiment, ça c'est un sujet. Tu vois, je savais pas qu'on allait l'aborder.
C'est un vrai sujet.
Et c'est pour ça, je suis honnête, moi j'ai beaucoup de copines filles, et heureusement qu'elles ont été là dans ces moments-là, parce que mes potes mecs, ils se la jouent mecs, tu vois, puis c'est des quadrames, donc ils vont pas me faire, mais non, je suis là, mon copain. Non. C'est, on va boire une bière, c'est pas un vrai problème. Quand t'auras des problèmes d'oseille, ce sera des problèmes. Voilà ce genre de phrase.
Alors que non, rupture amoureuse, c'est un vrai problème. Le problème d'oseille, c'est pas des vrais problèmes.
Tu vas passer comme tout le monde, parce que même si t'es là en tant qu'expert, tu vas passer sur le grill des quadras, même si t'es pas encore une quadra.
D'accord. Très bien, on anticipe.
On anticipe. Donc je te pose 5 questions, une réponse courte, c'est sur les souvenirs de notre enfance. Le goût d'un bonbon de ton enfance qui te manque.
Ah, les Harlequins, j'aime bien.
Hein, ça fait la deuxième, même le sortir des Harlequins. Moi, j'aimais pas ça.
T'aimais pas ça, hein. C'est clivant, le Harlequin.
Rien que d'y penser, j'ai tu sais, quand tu manges un truc trop acide, là, que ça te fait ça. L'émission de ton enfance qui a disparu et qui te manque.
Oh, les Minicums, bien sûr. Mais bon, alors, c'est peut-être pas Quadra. Hein. T'as regardé les Minicums?
Mais évidemment que j'ai regardé les Minicums.
Les Minicums. Mais pardon, mais il faut les faire revenir.
Ça
mais
serait bien.
Il me manque tellement.
Surtout avec les artistes d'aujourd'hui, ça serait rigolo.
C'est hilarant. Ouais. C'était trop bien. Les Minicums, bien sûr.
Un truc que disaient tes parents qui te saoulait, mais que t'appliques quand même aujourd'hui.
Lave-toi les mains avant de manger.
Vous saurez que Flore a les mains propres. Un adjectif pour qualifier la génération Z.
Challengeante.
D'accord, et abstinente. Tu devrais faire quoi à 40 ans?
À 40 ans, psychologue.
Bon, t'es pas loin. Hein.
Je suis pas tombé loin.
Merci beaucoup, Flore, pour ces réponses, plaisir. Pour ton expertise. Et j'espère que ça va apporter un peu d'aide à certains quadras qui se posent des questions sur leur sexualité. Vivez votre sexualité, moi je vous le dis. Vivez vos fantasmes, tant qu'ils font de mal à personne, vivez-les. Tant qu'ils vous font du bien,
c'est
à vous
très
aussi.
Très bonne parole. Et vous pouvez toujours découvrir plein de conseils dans le microscope dans la culotte.
Exactement, vous pouvez retrouver donc le livre de Flore, Le microscope dans la culotte, que je vous invite à lire. Vous allez avoir plein de conseils et apprendre plein de choses. Voilà, il y a 2-3 trucs qui m'ont vraiment surpris. Merci encore, Flore.
Merci à toi pour ton
accueil. Merci d'être venu, merci d'aider ces quadras. N'oubliez pas de continuer à suivre Quadra, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager comme vous le faites, parce que c'est grâce à vous que Quadra existe. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. Ciao les Quadras. Thank you.
www.radio.fr.
We walk around pretending we're all grown up. Hey, rich girls, what can you tell me? Why? So down. I'll tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. What a lovely way with words, is that the way I see the world? It's just the way I see the world. We're all grown up. Hey, rich girls, what can you tell me? Why you're so stuck up and that's so down? I'll tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. Last weekend, he was like, come on man, you have to point out everything that's bad. So there's a broken mirror on my bed, I clean it up, so what? You don't have to be such an asshole all the time. Don't be like that, she said.
Got you on my mind. de lecture.
Ça fait pas de mal, mon pote. T'as vu radio.
Hey, Gringe.
Ouais.
Tu vois, quand dans les films, y a plus personne qui peut sauver le monde et ils sont obligés de réunir une équipe d'experts qui a pas travaillé ensemble depuis longtemps.
Non, je vois pas.
J'ai fait un album qui parle que de ma meuf et de la société, ça te dit qu'on fasse un morceau.
Docu sur Amazon, on les Bezos. J'arrive sur scène habillé comme un Tecos.
Wow.
Si je sors avec une bombe, elle finit Lesbos.
Fax.
Le problème des bombes, c'est qu'elles explosent.
Boom.
Tes cauchemars, on les exauce.
Avant, on était des beaufs.
Croyez à bête,
Saitama et Genos.
Emmène ta meuf au resto, j'la détourne avec une pasta box.
Chasseur flotteur, on court tout droit vers la catastrophe.
Entre Terrence Malick et Terrence et Philippe.
San.
J'suis une star, j'peux pas baiser les civils.
Non.
J'contrôle les machines.
Ouais.
Boston Dynamics,
mmh.
Je suis une star, mon fils sera un fils de pute fragile. Ils voulaient pas croire en moi, tous ces fils de platistes. Je baisse le rap comme un raciste.
Je suis dans cette pute comme le Cialis. Tu fais de la musique pour les graphistes. Dick pic en NFT, un bisou au MLF.
Ouais.
Je me suicide en CBD, le physique en PLS.
Aïe.
J'ai jamais investi dans la crypto.
Jamais.
Du coup, j'ai sorti un bouquin sur les schizos.
Yeah, ouais.
Bim bada bim,
bim bada boom.
Deux.
Hey.
Bim bada bim,
bim bada bada boom.
Deux.
Bim bada bim,
bim bada boom.
Deux.
Okay.
Avant ils étaient cool, maintenant ils sont cool.
Deux.
Casseur flotteur jusqu'à l'infini.
Infinity.
Casseur flotteur jusqu'à l'infini.
Infinity.
On éclate le champagne au ralenti. Nos mères nous ont pas fini, donc on sera jamais fini.
Ok, je suis le plus connu de ma ville avec Guillaume le conquérant.
Ouais.
J'ai le statut d'une légende, t'as le statut d'intermittent.
Ouais.
Je rappe pas pour les chiffres, sinon je serais banquier comme le président. Scred veut pas que je mette mon âge dans mes sons parce que j'ai 39 ans.
C'est faux.
MMA pas comme les assurances.
T'as percé dans la manutence.
Maillot de foot du Groenland.
On crache le feu des oreilles flambent.
Whisky coca, je me brosse les dents.
C'est toujours green, j'ai or et le sang.
Ça sera jamais cohérent.
Oh là là, oh là là. Tout casa es mi casa. Modelo à Mexico, Sapporo à Osaka.
Aïe.
Au récent, j'ai de retour, on a mis les potaras. Traîne pas dans notre basse-cour, on passe du coq à l'âne.
Gringe,
mm-hmm.
T'es sûr de ta dernière punch?
Non, je sais, elle est nulle, pourquoi?
Non, comme ça.
Trois ans, j'ai pas rappé, bloqué sur mon canapé. Je vais du point A au point B en passant par tout l'alphabet.
Ouais.
Ah, c'est marrant, ça me fait pas marrer. J'écoute jamais les critiques, j'écoute que Adèle et Shadé.
Et nous en wish,
baiser des mères, c'est pitch.
Dans le système comme un glitch,
j'existe pas comme les problèmes de riche.
Swish,
tabac à la dentite.
Galant, je lui paye le hitch.
Chigo, je parle aux fantômes comme dans Bleach.
Tout est carré, tout est jean.
Je contrôle le net comme la Chine.
Je me fais tuer dans tous mes films.
Casse un flotteur origé,
ça fait bim, bada bim.
Bim, bada boom.
Deux.
Bim, bada bim.
Bim, bada bim. Bada boom,
bim bada bim,
bim bada boom.
Deux.
Avant ils étaient cool, maintenant ils sont cool.
Deux.
Casseur flotteur jusqu'à l'infini,
infinity.
Casseur flotteur jusqu'à l'infini,
infinity.
Degré zéro quand on réfléchit, fait pleuvoir les confettis. Casseur flotteur infinity.
Ok.
À titre à l'infini.
If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw away. Don't care if I belong, no. If I could kill the thing that makes us all so dumb, we're never getting younger, so I'm gonna have some fun.